Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Carré à Mio, la vinaigrerie ou encore le pont des chèvres à Bourg-en-Bresse.
La voie verte, la plaine tonique dans l'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse.
Ces projets urbains sortent de terre ou vont être lancés. Dossier spécial, on vous emmène aussi visiter le chantier du futur conservatoire au Carré à Mio.
Et reportage au site burgien de l'établissement français du sang pendant un don.
Bourg, en bref.
La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté dans l'Ain.
Cette première phase concerne le personnel soignant âgé de plus de 50 ans et les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée. La vaccination se fait sur la base du volontariat. Le département de l'Ain a reçu pour l'instant 10 000 doses de vaccins et la moitié de ces doses sont à destination du centre hospitalier de Fléria. Jeudi dernier, le 7 janvier, l'hôpital a inauguré son centre de vaccination. Catherine Malbos, la directrice de l'Agence régionale de santé, était sur place. Elle nous parle de la mise en place de cette campagne.
À partir de cette semaine d'aujourd'hui, pour les établissements d'hébergement des personnes âgées, qu'il s'agisse d'ailleurs des établissements privés ou sur un mode associatif ou des établissements qui dépendent d'un hôpital. Voilà, les démarches se mettent en place à partir d'aujourd'hui, de demain, en termes de vaccination. Sachant qu'il y a tout un travail préalable qui a été réalisé par une consultation médicale pré-vaccinale qui vise à la fois à s'assurer que la personne, bien sûr, est éligible au vaccin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication à ce qu'elle soit vaccinée, et qui parallèlement recueille le consentement de la personne. Et donc là, à partir d'aujourd'hui et de demain, ce qui démarre, c'est vraiment la vaccination à proprement parler. Et parallèlement, donc, nous mettons en place à partir d'aujourd'hui le premier centre de vaccination qui est placé auprès de l'hôpital de Fléria, qui lui accueillera plutôt donc, l'ensemble des professionnels pour la vaccination, avec une possibilité de faire à la fois dans le même temps la consultation pré-vaccinale et l'injection par elle-même. Dans les établissements, le travail est un peu dissocié. Par contre, dans le centre vaccinal, c'est au cours d'une même séance que les deux actes sont pratiqués.
Frédérique Labrogoubi, la directrice du centre hospitalier de Fléria, était aussi présente. Elle nous explique l'organisation de cette première journée.
On va faire sur les deux premières journées de vaccination qui sont aujourd'hui et demain, d'une part, tester, éprouver notre dispositif là pour le centre de vaccination. Vous voyez qu'on est quand même dans des locaux réduits. Si on veut augmenter nos volumes, il va falloir qu'on crée rapidement d'autres chaînes de vaccination. Donc là, vous voyez, vous entendez un de mes médecins tout à l'heure qui disait « c'est pas assez rapide, il ne faut pas qu'on mette 6 minutes, il faut qu'on mette 5 minutes pour la consultation pré-vaccinale ». Donc plus on aura de médecins qui vont intervenir pour les consultations pré-vaccinales et en même temps d'infirmières, plus on pourra augmenter le nombre de professionnels qu'on va vacciner. Donc ça, c'est un peu sur aujourd'hui et demain, on va ajuster. Là, aujourd'hui, on aurait déjà une cinquantaine de professionnels qui auraient été vaccinés. Donc déjà demain, ça fait 110-120 professionnels. Donc on va s'améliorer comme ça. Et peut-être, si on crée une deuxième chaîne la semaine prochaine, être quasiment à 250, voire 300 professionnels par jour. Par ailleurs, on commence, nous, demain, l'EHPAD, la vaccination sur l'EHPAD de Pélican et sur l'USLD. On a demain environ une soixantaine de résidents qui vont être vaccinés. Donc c'est pareil, ça va nous permettre de voir comment ça fonctionne. Et la semaine prochaine, on passe dans une échelle plus industrielle parce qu'on va aussi vacciner Hauteville, Cerdon et j'espère Oyonnax avant la fin de la semaine. Et après, on aura Pont-de-Vel, Pont-de-Vaux et Meximieux. Donc vous voyez, on a un programme de montée en charge qui est assez important.
Du côté des EHPAD qui dépendent de Fléria, ils sont 1600 résidents à pouvoir se faire vacciner. Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et président du conseil de surveillance du centre hospitalier, était aussi sur place. Il souhaite que les mairies soient impliquées dans cette campagne de vaccination pour la rendre plus efficace. La France a passé la barre des 100 000 vaccinations ce week-end. Et lundi 18 janvier, la campagne de vaccination sera ouverte à toute personne de plus de 75 ans. Ce même jour, retrouvez notre dossier spécial sur la vaccination à 18h toujours dans À vous les Burgiens.
Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, organise un échange interactif sur Facebook.
Et c'est ce vendredi 15 janvier de 18h30 à 19h30 sur le réseau social. Pas besoin de compte, vous pourrez poser toutes vos questions au maire tout en restant devant votre écran. Plus d'informations sur la page Facebook Ville de Bourg-en-Bresse.
Le campus de Bourg-en-Bresse présente ses formations pendant 3 jours.
Du 14 au 16 janvier, un salon virtuel est organisé par l'université Jean Moulin. Le but est de faire découvrir les formations proposées après le bac et jusqu'à bac plus 3. Ce sera de 9h à 18h. Les conférences resteront en ligne jusqu'à mi-février.
Radio B.
Radio B.
Et vous l'avez sans doute remarqué, les chantiers sont nombreux à Bourg et dans l'agglomération. Les projets urbains fleurissent depuis quelques temps. Nous faisons le point sur ces grands travaux.
Commençons avec l'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse, la SA3B qui, je le rappelle, regroupe 74 communes et rassemble 135 000 habitants. La SA3B est très étendue avec des communes qui ont chacune leur spécificité et donc des objectifs d'urbanisme très différents. Claudie Saint-André, conseillère déléguée de la SA3B à l'urbanisme, nous présente un des projets communs.
La voie verte qui de Jaïa arrive aujourd'hui au sud d'Attigna. Nous allons continuer dès cette année par la traversée de Bourg pour rejoindre la partie nord via Viria en direction de Bouvant, pour ensuite pouvoir poursuivre lorsque le tracé sera complètement validé en direction de Césaria.
Dans 3 à 4 ans, la voie verte, la traverse de Bresse en Revermont, c'est son nom, totalisera 45 km. Elle permettra de relier à pied, à vélo ou avec un autre mode de transport sans moteur, Saint-Trévit-de-Courte à Césaria.
Et un autre chantier va commencer en 2021.
Et oui, c'est celui de la plaine tonique à Montrevel-en-Bresse. Première étape cette année avec les travaux sur l'espace aquatique.
Au niveau de l'espace aquatique, qui était jusqu'à aujourd'hui un espace aquatique qui était ouvert qu'en saison estivale, nous faisons des travaux afin que l'on puisse ouvrir en aile de saison, avec l'objectif à la fois de dégager de l'activité, mais également d'accueillir les scolaires de l'agglomération. Parallèlement, sur les 6 années qui viennent, un grand chantier de réhabilitation globale de la plaine tonique va être lancé sur les espaces extérieurs, un réaménagement, une remise à niveau du camping, des réaménagements de la plage, une opération de déconstruction, reconstruction du bâtiment d'accueil, des halls de loisirs. Voilà, un grand chantier qui s'amorce là avec, on va dire, la finalisation du programme qui est en train de se faire.
En attendant de s'offrir une nouvelle jeunesse, la plaine tonique prépare la saison estivale 2021. L'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse recrute des saisonniers. C'est en ce moment sur le site internet de la CA3B.
Et autre projet à venir pour 4 communes, Bourg-en-Bresse, Viria, Perona et Saint-Denis-les-Bourgs.
La CA3B réfléchit à l'aménagement des grands boulevards, comme l'avenue Amédée Mercier, la route de Pondin ou encore la route de Paris. Projets sur lesquels les équipes des 4 communes commencent à travailler. Parmi les objectifs, améliorer les entrées de ville au niveau du paysage et donner plus de place aux modes de transport doux et alternatifs, transport urbain et vélo.
Et du côté de Bourg-en-Bresse,
Claudie Saint-André, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, l'assure, les projets n'ont pas pris de retard, ou alors il n'est pas flagrant. Elle pense par exemple au carré Amiot. Dans quelques minutes, nous serons dans les coulisses du chantier. Les entreprises ont repris le travail rapidement, sans oublier les nouvelles consignes sanitaires. Parmi les projets portés par la ville de Bourg, le très attendu carré Amiot qui verra le jour après 2 ans de retard. L'opérateur et le projet original ont changé.
Pour découvrir ce qui est prévu pour le conservatoire, on vous emmène dans les coulisses du chantier. Thierry Bachelet, directeur de la construction et du patrimoine à la CA3B, nous fait la visite.
Donc là, en fait, le projet architectural est construit autour du bâtiment de l'ancien collège Amiot et deux bâtiments nouveaux qui sont positionnés de part et d'autre du grand escalier et le tout, on va dire, relié par une grande verrière à la fois qui va faire couloir d'exposition et transparence vers la ville et qui couvre aussi l'escalier monumental qui distribue l'ancien bâtiment.
Vous avez tout gardé l'ancien collège
Pas tout, il y a l'aile nord qui donnait du côté de sur le parking en face de Montbarbon qui a été démoli. Et c'est tout le bâtiment transversal là, qui a été conservé, effectivement avec l'intérieur qu'on pourra voir.
Donc là on va voir un peu comment ont avancé les travaux, vous allez nous montrer?
Tout à fait. Donc là on est dans l'atrium qui servira un petit peu de noyau central de tout le bâtiment, avec effectivement l'accès par l'escalier monumental sur le bâtiment ancien. À droite, toute la partie administrative, des salles, premier niveau, deuxième niveau, salle de musique. Et sur la gauche, donc le bâtiment qu'on dit bâtiment B, où il y a notamment l'amphithéorium, et au-dessus des salles de musique et de répétition aussi. Et sur la partie gauche ici, donc en fait ça va être plutôt l'endroit convivialité, c'est pour des manifestations, voilà, ce qui est sous les tribunes qu'on aperçoit là. Donc là on est dans l'amphithéorium avec donc un plateau scénique qui sera en parquet et avec du matériel sophistiqué, je dirais moderne, et 186 places de public qui seront équipées avec des fauteuils type cinéma.
Visuellement on voit déjà qu'il y a les marches, le mise, les différents paliers pour mettre les sièges.
Tout à fait, voilà, c'est tout je dirais l'enveloppe béton qui est terminée et maintenant on va commencer à engager toute la partie corps d'état secondaire. Voilà, on va continuer peut-être voir si vous voulez sur les étages. Donc là c'est l'étage où il y aura les loges, notamment pour tous les artistes pour les spectacles. Donc voilà, là ce sont des salles de répétition donc au niveau R+2 ouais, qui vont donner sur une passerelle. On va essayer d'y aller.
Donc la passerelle qui servira?
La passerelle en fait c'est à la fois un élément architectural qui permet aussi un peu un lien avec la ville. Bon après normalement c'est pas forcément dans un lieu ni de spectacle ni de passage, mais voilà c'est aussi la continuité entre les deux bâtiments et la partie atrium. Alors là, c'est l'intervention d'une société sous-traitante, une société de Bourg-en-Bresse, Sobrapi, qui vient pour faire la protection contre le feu, voilà, en pulvérisant des produits sous la passerelle. Là, on peut voir depuis ce point de vue la nouvelle toiture ardoise, en fait, qui a été toute complètement refaite, hein, parce qu'on a refait à la partie les parties ardoises et toute la partie tuile qui est en cours sur le bâtiment ancien.
Donc là on est côté plutôt champ de foire.
Côté champ de foire, côté Montbarbon. Les anciens ont joué entre des pierres blanches et des pierres bleues, ou certaines qui sont mélangées. Et puis il y a d'autres endroits où ils ont fait carrément des rentes bleues, des rentes blanches. C'est des pierres locales. Hein, donc là vous avez ce qu'on appelle une pierre bayadère avec un mélange de bleu et de blanc.
Si on parle de l'avancée au fur et à mesure des mois, des années, vous avez commencé par quoi? Après il y a eu quoi, etc.
En premier lieu, il y a eu tout ce qui est démolition, désamiantage. Ensuite, tout ce qui est fondation spéciale, parce qu'on est sur un terrain qui n'est pas forcément très bon. Donc on a à peu près 78 pieux qui descendent à 18 mètres, qui permettent de soutenir tout ce bâtiment. Les deux, là, qui n'en font qu'un. Et parce qu'on est aussi sur une ancienne void, c'est un gros collecteur d'eau pluviale et d'eau usée qui passe sous ce bâtiment-là et donc il a fallu le protéger pour ne pas le déstabiliser. Parce qu'il participe toujours au fonctionnement du réseau urbain de Bourg-en-Bresse. Et ensuite, une fois que tout ça a été fait, c'est la semelle du bâtiment, plus l'élévation du génie civil, toutes les modifications après dans le bâtiment ancien en préparation. Et donc là, maintenant, on va pouvoir passer sur tout ce qui est corps d'état secondaire.
Est-ce qu'il y a eu des contretemps
Disons qu'on en aura toujours, parce que ça se ressent encore, notamment sur les livraisons de certains matériels, ou en production, ça peut gêner. Il y a des problèmes d'alimentation sur certains produits qui rentrent dans, par exemple sur les vitrages, on a des volets qui sont intégrés dedans, des stores, après il y a des problèmes de livraison sur certains produits, voilà, ça se ressent comme ça, donc voilà, on fait avec.
Et donc là on a vu qu'il y avait quelques fenêtres qui commençaient à être mises,
voilà,
ce sera quoi les prochaines étapes concrètement au niveau du paysage des Burgiens, ce qu'ils pourront voir?
Au niveau du paysage, on va avoir la façade, le doublage façade. Là, vous avez vu qu'il y a l'armature qui commence à être posée. Donc, on va avoir l'isolation et le doublage qui va se faire. On va avoir les verrières qui vont se mettre en place, les vitrages aussi de tout ça. Et puis là, ça va être l'intérieur après qui va commencer à être occupé avec la mise en place des cloisons intérieures. Et puis après, donc l'électricité, tout ce qui est CVC, donc chauffage, ventilation.
Et ça va durer encore combien de temps?
On espère, si on n'est pas trop gêné par les phases Covid et autres, parce que ça ne nous a pas forcément aidé jusqu'à présent, pour l'automne.
Le bâtiment à l'arrière du conservatoire sera livré à la fin de l'année et accueillera des bureaux et un food court, c'est-à-dire un espace où on pourra manger ou prendre à emporter. Leur ouverture est normalement prévue pour février 2022. L'esplanade François Mitterrand, gérée par la ville, devrait être terminée à l'ouverture du conservatoire. On le rappelle, le conservatoire est un projet de l'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse.
Cette année marque aussi la suite du renouvellement urbain pour le pont des Chèvres.
Bourg Habitat a démoli 3 immeubles. Aujourd'hui, la ville s'occupe des espaces publics. La construction de la maison du cirque et la rénovation du gymnase Villard sont les prochains gros chantiers. Ils doivent être livrés entre 2022 et 2023. Longtemps sans projet, le camping municipal à l'arrière de Carédo sera finalement transformé en lotissement. La construction va démarrer au printemps 2021.
Et des changements à prévoir aussi sur le pont de Lyon.
Le travail de dépollution a démarré. Objectif, faire une nouvelle voirie, un rond-point et des aménagements autour de la rue Jules Ferry.
Le nouveau Décathlon va ouvrir le 18 octobre.
Il sera situé entre le boulevard Joliot-Curé et l'avenue des Belges. Un chantier dans les temps, le magasin de Viriette est devenu trop petit pour l'agglomération selon l'enseigne. Des panneaux photovoltaïques assureront un quart de la consommation en énergie du bâtiment.
On part maintenant de l'autre côté de la ville, près de Bouvant, avec le projet Domaine du Lac.
Les maisons vont sortir et la salle des familles se termine. Elle sera ouverte à la location à partir de mai 2021.
Travaux aussi du côté de l'université Jean Moulin à Bourg.
L'agglomération, en partenariat avec le département et la région, entame la deuxième phase des travaux du campus. Des salles de cours et un centre de documentation vont voir le jour dans l'aile nord du bâtiment. L'ancienne chapelle va devenir une salle polyvalente et un foyer étudiant. L'opération doit s'achever en 2024. Le campus de Bourg-en-Bresse veut se développer, accueillir plus d'étudiants et de nouvelles formations.
Et il y a les projets portés par des groupes privés.
Le bâtiment Saint-Joseph, dans le parc de la Madeleine, va faire peau neuve. Situé entre la gare et le tribunal de Bourg-en-Bresse, le projet immobilier doit redynamiser le secteur. Il est porté par le groupe Cardinal.
Bonjour, Célia Berthélémy, je suis directrice montage du groupe Cardinal. Donc nous, on a un projet unique, un seul bâtiment avec une architecture moderne, contemporaine, mais qui va cacher en fait plusieurs usages différents intérieurs, puisqu'on a une mixité de fonctions. D'abord, une résidence du savoir, donc qui est à destination d'étudiants, de jeunes actifs et de la colocation. Un espace tertiaire au premier étage et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Parce que l'idée, c'était d'avoir un socle commercial actif, dynamique pour l'opération. Donc voilà, c'est un seul et même bâtiment avec une architecture remarquable, avec une résille en double peau blanche un peu évanescente, avec plusieurs usages intérieurs.
Ce bâtiment, à la base, vous voulez le réhabiliter. Pourquoi ça n'a pas été possible?
Alors, on a fait l'étude. En fait, on a fait un vrai brainstorming avec toute l'équipe dès le départ du projet pour savoir, parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'histoire d'un lieu, de le conserver. Malheureusement, il y avait vraiment deux points qui rendaient le projet impossible. D'une part, parce que c'est un bâtiment qui n'est pas du tout à la rue aujourd'hui. Donc avec un mur aveugle. Donc comment créer la transparence sur le parc? Comment créer ces fonctions d'animation à rez-de-chaussée sans avoir un accès direct? Autre chose, c'est que c'est un bâtiment qui est assez fin, qui n'est plus du tout aux normes et à ce qu'on souhaite aujourd'hui dans les usages des bâtiments. Donc c'était rendu impossible.
La construction devrait débuter fin 2021 pour une livraison fin 2023.
Autre projet, celui de la vinaigrerie à côté de la tannerie.
Le terrain où s'élevait une usine à gaz a été racheté par Vinci Immobilier. Maintenant, ce seront des logements et une résidence senior.
Marilyn Poulet, je suis directrice territoriale Rhône pour Vinci Immobilier.
Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet, les bâtiments, leurs fonctions?
C'est un projet qui se situe donc sur le site de la Vinaigrerie, qui est un terrain qu'on a racheté à Engie avec Brownfield et qui réalise à la fois la dépollution et la requalification du site et derrière la construction de deux bâtiments. Un bâtiment de 19 logements libres et un bâtiment de 104 logements qui sera une résidence service senior, le tout au sein d'un parc qu'on va également réaménager et planter et rétrocéder à la ville de Bourg.
Donc le parc sera accessible à tous?
Le parc sera accessible à tous, effectivement. Il reliera via des modes doux les voiries existantes et ce sera un véritable espace de déambulation à la fois pour les étudiants autour, les riverains, mais également pour les seniors. Et je pense que c'est un bon moyen de créer aussi du lien social.
La difficulté de ce projet, c'était la dépollution notamment. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé?
Effectivement, il y a une grosse partie de dépollution. C'est pour ça qu'on souhaitait effectivement la faire sur les mois de juillet et août pour que ce soit le moins pénalisant possible, puisqu'on savait qu'il y avait de fortes odeurs qui pouvaient s'en dégager. Et pour éviter que ça pénalise le lycée, on souhaitait que ce soit fait sur les mois d'été. Donc elle a attaqué au mois de juillet et on vient de finir début octobre.
Quentin Mataillon, directeur du développement pour la marque Ovelia, exploitant de résidences services seniors en France. Alors il s'agira d'une résidence de 104 logements proposant des appartements à la location meublée allant du T1 jusqu'au T3, destinés à tout senior retraité ne nécessitant pas de soins médicaux. Nous sommes non médicalisés. Nous avons plus de 800 m² d'espace commun dédié aux résidents et à leurs proches en visite. Nous avons un accueil avec une vraie conciergerie au sens hôtelier du terme, une équipe présente 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les demandes. Un salon détente pour tout type d'activité, mais également c'est le lieu où nous proposerons des animations midi et soir. Également un restaurant qui est libre d'accès pour les résidents et leurs proches. Également ouvert midi et soir avec une véritable cuisine collective qui prépare les repas sur place. Nous avons un espace bien-être avec une piscine intérieure chauffée et également une salle de sport. Enfin, un salon de coiffure est à disposition d'une coiffeuse qui prend les soins esthétiques de nos résidents.
Tout ça, c'est que pour les résidents?
Exactement. C'est dédié aux résidents à partir de 60 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. La condition, c'est l'autonomie, puisque nous sommes non médicalisés.
Le projet de la Vinaigrerie devrait se terminer fin 2022. Une autre résidence senior va voir le jour en face du monastère royal de Brau et dans le parc Martin.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Le don du sang a besoin de vous.
Les débuts d'année sont toujours un peu calmes pour l'établissement français du sang. Pour soutenir l'EFS, la ville de Bourg-en-Bresse participe à la campagne Missing Type. Sur les réseaux sociaux, la mairie a fait disparaître les lettres A, O, B, qui correspondent aux lettres des groupes sanguins. C'est une campagne internationale qui a lieu jusqu'au 16 janvier. Reportage à Fléria pour savoir comment se passe un don du sang. Nous avons suivi Elodie tout au long du parcours.
Bonjour, j'ai rendez-vous à 15h45.
D'accord. Alors, je vous invite à vous laver les mains avant le parcours du don, s'il vous plaît.
C'est la première fois que vous faites le don du sang?
Non, c'est pas la première fois. Ça doit être la 6e, 7e fois. Mais à chaque fois, je suis hyper stressée. Donc j'espère que ça va aller.
Qu'est-ce que vous redoutez?
J'ai peur de tomber dans les pommes. Voilà, un peu bizarre, mais ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'appréhende un peu ce moment. Mais bon, ça va bien se passer, on y croit.
Et nous laissons maintenant Elodie avec un médecin pour son entretien. Secret médical oblige.
Alors, comment s'est passé ce rendez-vous?
Très bien, avec beaucoup de questions, mais qui sont nécessaires, j'imagine. On nous pose des questions sur nos voyages à l'étranger, sur des examens médicaux, si on se sent bien, si on a été malade, surtout là en ce moment, si on a eu de la toux, si on a été essoufflé, sur notre vie un peu intime quand même, il faut qu'on pas leur parle de nos relations privées, mais je pense que c'est nécessaire, voilà.
Ah, donc c'est validé, c'est bon ?
Bah, a priori, oui. On va voir.
Je peux avoir votre nom ?
Frédéric.
Et donc vous êtes ?
Infirmier de prélèvement, essentiellement, mais on est aussi en collecte mobile donc dans les villages.
Je vous laisse vous installer. Vous avez déjà deux mains, donc hein, c'est
oui.
Ça
ouais.
Je vous laisse serrer le poing. Alors là, on repère en fait la veine. Hein, donc on a mis un garrot qui bloque en fait le retour veineux, ce qui fait que les veines se gonflent. Donc ça nous permet de, voilà, de pouvoir apprécier avant de piquer. Voilà, donc c'est bon, le repérage est fait.
On va faire avant tout aussi un petit test pour vérifier le taux d'hémoglobine. Hein. Le taux minimal, c'est, pour les femmes, c'est 12 grammes par litre.
Si on est en dessous, on ne peut pas prendre une poche, donc, hein, pour éviter de faire descendre ce taux, et puis pour que la concentration en globules dans la poche soit suffisante. Donc voilà, si toutefois on était un petit peu en dessous, on ferait juste une prise de sang de contrôle hein, pour avoir une numération, mais on ne prendrait pas une poche. Là, vous êtes à 12,2, donc ça va, pas de souci.
Vous prenez combien de sang à chaque fois ?
Alors, ça varie entre 420 et 480 millilitres. Voilà, c'est en fonction du poids, de la taille, il y a différents critères. Donc là, aujourd'hui, on a 450.
L'infirmier commence maintenant la prise de sang pour remplir les différentes poches. Cela prend une dizaine de minutes. Pendant ce temps, Nathalie Josseau, responsable des prélèvements de l'Ain, nous explique la composition de la salle de prélèvement.
On a trois types de prélèvements, les dons de sang. C'est souvent ce qu'on entend, le don de sang, c'est le don de sang classique où on donne une poche de sang total et à partir de ce sang total, on sépare les différents éléments du sang et on fait une poche de globules rouges, une poche de plasma et une poche de plaquettes. Et on a aussi des donneurs qui donnent sélectivement un seul produit. Sur les machines là, c'est des dons de plasma. On prélève sélectivement que le plasma, donc le donneur est prélevé. Mais la machine sépare les différents éléments du sang, on garde que le plasma et on lui restitue ce qu'on n'a pas gardé de son propre sang en circuit stérile à usage unique. Il est relié qu'avec son circuit à lui et autonome. Et puis des donneurs qui donnent en plaquettes, plasma-plaquettes, où là le séparateur leur prend des plaquettes qui servent pour les patients en général qui ont des leucémies, chimiothérapie, cancer, maladie de sang, greffe. Et on leur prend un petit peu de plasma aussi et on leur restitue ce qu'on n'a pas gardé de leur sang par un système aussi de séparateur.
Élodie a maintenant terminé son don et elle va dans une salle où une collation lui est proposée. Pas de buffet, mais tout est en portions individuelles, sous plastique. Ce sont les mesures prises avec la pandémie.
Alors j'ai des yaourts aux fruits, des compotes, des crèmes des sardines, du chocolat, des petits gâteaux, des viennoiseries.
Donc comment ça s'est passé ?
Bah bien. Bien, ça va, je ne suis pas tombée dans les pommes, c'était mon objectif du jour, donc ça va, non, je me sens bien. Bon, je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment physique, mais on sent un peu fatigué quand même à la fin. Mais bon, là c'est cool, je vais avoir droit à mon petit jus de fruits, une compote, des petits gâteaux, c'est la classe, merci.
Et on écoute maintenant Nathalie Josseau, responsable des prélèvements dans l'Ain pour l'établissement français du sang.
Donc là, on a suivi donc une personne qui est venue donner son sang. Ses poches de sang, qu'est-ce qu'elles deviennent après ?
Alors, la poche de sang donc, va partir cette nuit, puisque c'est une collecte de soir, sur un site qui est, nous, notre site de préparation des produits sanguins, qui est situé à Décines, à côté de Lyon, où là, ils vont préparer, séparer les différents éléments du sang, justement, le côté globule rouge, le côté plaquette et le côté plasma. Et après, donc, préparer ces produits et après les envoyer en stockage, les garder en stockage et les envoyer en fonction des besoins des services de délivrance. À Bourg-en-Bresse, on a aussi notre site de délivrance qui est dans les mêmes locaux que notre établissement de prélèvement. Les tubes d'analyse qui sont systématiquement prélevés sur tous les dons vont partir pour la région à Métessy, c'est à côté d'Annecy, où là l'ensemble des analyses qui sont obligatoires sur les dons de sang sont effectuées. Toutes ces données sont après informatiques et une fois que le produit sanguin est préparé, conditionné et les analyses sont bonnes, à ce moment-là, le produit est libérable et part dans des services de délivrance, dans des hôpitaux, dans des dépôts, pour être dans des sites qui sont bien sûr surveillés avec des températures, puisque chaque produit sanguin est conservé à une température définie, de manière à être prêt à être transfusé.
Et donc, c'est quoi, c'est quel profil les personnes qui ont besoin de ce sang ?
Alors, il y a déjà toute la chirurgie, tous les accidents, toutes les hémorragies, et puis il y a certains accouchements qui, heureusement, se passent majoritairement bien. Et puis après, il y a toutes les maladies chroniques. Donc en cancérologie, les chimiothérapies, c'est des formidables traitements, mais parfois font que les globules rouges chutent, les plaquettes chutent, donc on est obligé de compenser un certain temps par des transfusions les cellules du sang qui ont été altérées par ces traitements. Il y a des maladies chroniques qui font que les patients ont besoin de produits sanguins de façon régulière. Et puis des maladies, ce qu'on appelle des myélodysplasies, qui font qu'il y a des patients qui, pour continuer à avoir une vie normale, ont besoin de transfusions régulières. Et des patients qui sont transfusés tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des besoins particuliers ici, dans l'Ain, à Bourg ?
Alors actuellement, bon, le début de l'année, effectivement, démarre un petit peu doucement. Donc, pour être vraiment dans la sécurité, au niveau de l'ensemble des produits sanguins, on doit avoir en France plus de 12 jours de stock de produits sanguins. Là, actuellement, en région Rhône-Alpes, on a quelques déficits sur certains groupes sanguins, en particulier les groupes A négatif, O négatif et le groupe B. À un moment, on a été très inquiet à nouveau à la rentrée, puisque après les vacances, l'activité hospitalière reprenait. Or, il y avait encore des entreprises qui étaient encore avec du télétravail, des universités qui ne réouvraient pas, des lycées qui étaient encore fermés, des élèves pas présents. Donc, on a été très inquiet à ce moment-là parce que l'activité hospitalière avait repris. Donc, il y a eu à nouveau des appels aux dons et les donneurs ont encore bien, bien répondu. Ce qui fait qu'en région Rhône-Alpes, heureusement, on a pu remplir l'ensemble des objectifs avec des collègues qui ont remplacé, des collègues qui étaient annulés, des associations de bénévoles qui ont été super présents, qui nous ont aidés à créer, inventer, repenser les collectes, les collectes de sang. Et ils sont tous formidables à nos côtés. Et je pense qu'avec tout ce travail collectif, on est arrivé à remplir en région Auvergne-Rhône-Alpes nos objectifs de prélèvement. Et c'est génial, quoi.
Et la collecte du sang, c'est seulement sur rendez-vous maintenant. Il faut aller sur le site internet mon-rdv-dondusang.efs.santé.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et soyez à l'écoute lundi prochain à 18h, le 18 janvier, pour un numéro spécial campagne de vaccination dans l'Ain. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.